Bonsoir à toutes et à tous. Pour continuer à se projeter vers l'avenir et pour mieux comprendre les transformations qui s'opèrent aujourd'hui dans notre secteur d'activité, vous le savez, on a la chance d'accueillir un grand témoin aujourd'hui. Son visage ne vous est pas inconnu, on le voit très régulièrement sur les plateaux de télévision et on l'entend également sur les ondes. On peut dire qu'il porte un regard plutôt vif et très documenté sur le tourisme. Directeur de recherche associé au CVPOF CNRS, sociologue spécialiste du tourisme, de la ruralité et du temps libre, merci d'accueillir M. Jean Viard.
Bonjour madame. Bonjour.
Vous voulez quel fauteuil ?
Peu importe, je vous laisse là peut-être, moi si ça vous, me va bien de ce côté-là. Je vous remercie.
Parfait.
Bienvenue en Touraine, Monsieur Viard. On est très heureux de vous accueillir. On vient de présenter les grandes orientations stratégiques de la destination à 2030. On a vu également que l'économie touristique sur notre destination est très significative en termes de poids. Vous avez pensé, vous travaillez le tourisme depuis un certain nombre d'années déjà. Je vous en prie, je vous laisse ramasser votre feuille.
N'insistez pas, ça fait plus de 50 ans.
Je n'allais pas le dire. Quelques décennies. Donc c'est un sujet que vous connaissez bien et vous avez beaucoup travaillé, notamment ces dernières années, et pensé au tourisme de demain, au fait de réinventer le tourisme. On est effectivement impatients de vous entendre sur ce sujet, mais avant ça, il est sans doute bon de rappeler que voyager, c'est avant tout se rencontrer, c'est rencontrer l'autre. Et vous dites d'ailleurs que le voyage décentre.
Oui, mais c'est le voyage. Mais c'est là qu'il faut rester sur les vieux maîtres. Hein, je veux dire, voyager, c'est s'intégrer. C'est partir, c'est revenir. Donc si vous partez jamais de chez vous, vous revenez jamais chez vous non plus. Donc vous ne regardez pas quand on revient de vacances. On réévalue sa vie, on réévalue ses projets. Donc c'est dans les deux sens que ça marche. D'ailleurs, les groupes dans la société les moins intégrés sont ceux qui ne voyagent pas. Notamment, bien sûr, les jeunes immigrés. Mais pas seulement. Puisqu'en gros, si vous voulez, en France, il y a à peu près 20% des gens qui ont horreur de découcher. C'est leur droit. Ils veulent être chez eux tous les jours. Bon. Et puis, en gros, il y en a 60% qui partent en vacances et donc 20% qui pourraient partir, qui ne partent pas, pour dire les choses simplement. Donc, il y a ça de fond. Mais je dirais une chose avant, c'est qu'on est dans une période totalement imprévisible. Vous voyez, il y a 10 ou 20 ans, dans une réunion comme ça, j'aurais sans doute plus proposé des choses précises parce que le futur était beaucoup plus prévisible. Oui, il se trouve que je suis un peu coupable du voyage à Nantes, un petit coupable. J'avais conseillé la mairie de Nantes pendant un an avant qu'il crée le voyage à Nantes. Bon, j'étais étudiant à Orléans, tout ça, donc je connais ces territoires. Mais à l'époque, c'était plus facile de prévoir. Parce qu'on est dans sans doute une période les plus imprévisibles de l'histoire humaine. La grande pandémie a complètement changé les données. Le monde est totalement devenu aléatoire. Vous avez parlé de ChatGPT, qui est à nouveau l'élément d'imprévisibilité. Mais au fond, ce qui a changé, c'est que c'était nous qui faisions l'histoire depuis 150 ans. Nous, les hommes, on se battait pour vivre plus longtemps, voyager, éduquer, etc. Et puis, on s'est tellement battu, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Hein. On a allongé la vie à peu près de 20 ans depuis 45. C'est gigantesque. C'est un succès magnifique. Mais en même temps, on est allé trop loin et on a bousculé la nature. Et donc, aujourd'hui, c'est la nature qui fait l'histoire. C'est plus l'homme. L'homme, il court après la nature, il court après les incendies, il court après les réchauffements. Vous voyez, je fais de la formation de pompiers, et depuis un certain temps, je disais aux pompiers de Lille, allez vous former à Marseille. À ceux de Marseille, je leur disais, allez vite en Algérie, parce qu'il faut que vous ayez un temps d'avance. Et donc, on est dans cette période. Et donc, ça veut dire qu'on peut faire des projets, mais on peut se dire en même temps, attention à l'aléatoire, attention à l'imprévisibilité. Je ne sais pas comment on sera dans 20 ans. Je ne sais pas si on se déplacera autant. Je ne sais pas quel sera le niveau des incendies. Regardez ce qui se passe au Canada. C'est monstrueux. Pour l'instant, nous, les incendies, je dirais que la Loire était un peu notre limite. C'est fini. Vous voyez, il y a tout ça. Alors, je ne veux pas catastropher le monde parce qu'en même temps, il y a des opportunités. Vous, par exemple, ça vous arrange. À court terme, il fait plus chaud. Nous, en Provence, on a trop chaud, puisque j'habite près de Marseille. Donc, les gens viennent plutôt ici. La Bretagne gagne des clients. Moi, je suis très souvent en Bretagne, j'ai une maison en Bretagne. On voit bien là, les avantages. Donc, il faut dire tout ça en même temps. Donc, ça, si vous voulez, c'est un point important. Après, le tourisme, c'est... Vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la société française a construit sa modernité autour du temps libre. On est un des très rares pays à avoir fait ça. Mais si vous rajoutez, si vous voulez, les loisirs, la culture, le départ en vacances, le fait que 60% des gens ont des jardins, le fait qu'il y a 4 millions de familles qui ont une résidence secondaire, il ne faut pas considérer 4 millions d'individus, 4 millions de familles. Une famille, c'est 5-10 personnes. C'est à peu près la moitié des Français utilisent des résidences secondaires. On est très nombreux à avoir de la famille qui prend sa retraite en dehors des grandes villes, qu'on va voir après, ou à l'inverse, on est parti pour aller à la grande ville et on revient les voir. C'est pour ça que le tourisme, c'est tout ça en même temps. Et c'est d'abord évidemment l'habitant. L'habitant est le premier touriste de son territoire, il ne faut jamais l'oublier. Mais après, chaque territoire a ses histoires. Les Bretons sont beaucoup allés à Paris, on a tous vu à une époque. Ben, c'est clair que les gens qui vont en vacances en Bretagne sont très souvent, notamment quand ils viennent d'Île-de-France, des Bretons, et que les Bretons du Nord vont beaucoup en vacances en Bretagne du Sud. Mais vous n'allez pas avoir le même processus ailleurs. Le tourisme, c'est très fin, c'est parce que c'est en partie une remontée de la mémoire. Une des grandes directions du tourisme, c'est de retourner aux origines. Là où on se raconte qu'on est né, parce qu'on n'est pas tous nés dans la famille, on dit je suis breton, je suis etc. Donc on se raconte des histoires, et au fond le tourisme c'est le parcours de cette histoire. Et là, c'est pour ça que, bien sûr qu'il faut travailler sur l'histoire des lieux, mais il faut bien connaître les phénomènes de peuplement, et en ce moment ce qui change c'est qu'on a à peu près 20 millions de gens qui sont sur l'âge de la retraite, donc ils n'ont pas de contraintes de localisation. On a le télétravail qui a explosé, il est à 25%, on va monter à 40%. En Île-de-France, on est déjà à 43% de télétravail. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ne vont jamais dans les villes. Mais ça veut dire qu'au lieu de venir 2 jours dans leur résidence secondaire, ils vont venir 4 jours. Mais ça peut être en camping-car, ça peut être en Airbnb. En France, il y a 500 000 Airbnb qui, en moyenne, rapportent 3 950 euros par famille. C'est génial, ça paye à peu près les vacances, quoi. Alors, on parle toujours des Airbnb professionnels qui surintensifient et tout, mais c'est une toute petite partie qui est mal gérée, je suis d'accord. D'ailleurs, souvent, on parle des mairies, mais la vraie question, le cœur du Airbnb, c'est, je prête ma maison, c'est une société de la réutilisation. Ma maison est utilisée quand je n'y suis pas. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut dire, parce que le cœur du tourisme, c'est la famille, c'est les liens familiaux, c'est 70% des gens partent en famille, et 75% des gens partent dans leur famille. Et c'est le cœur du phénomène. Et puis autour, il y a les professionnels qui sont extrêmement importants, évidemment, mais il faut voir tout ça en même temps. Parce que souvent, on ne voit que la partie, j'allais dire, marchande. Et en plus, dans notre société, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus mobile, on a fait beaucoup d'autoroutes, donc il y a de plus en plus de gens qui prennent leurs vacances sans découcher. Alors vous êtes un peu loin de la mer, mais les Français se sont rapprochés de la mer. Et donc, plein de gens, ils sont à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, etc., en fait, ils vont à la mer tous les jours pendant les vacances, mais ils ne partent pas. Parce que le soir, ils vont manger une pizza, boire un rosé, etc. Il y a ce développement du tourisme à domicile qui est des vraies vacances. Ce n'est pas des excuses des vacances. Puis aussi des excuses des vacances, dont vous avez d'ailleurs parlé, qui sont notre population. Voilà, c'est tout ça, je vais vous dire, pour dire que c'est un phénomène extrêmement compliqué. Mais en même temps, il y a des choses qui montent. Vous l'avez bien vu, ben vous le savez aussi bien que moi. Mais je veux dire, c'est clair que le rapport à la nature a pris une importance tout à fait nouvelle. La question du patrimoine est très positive. C'est d'ailleurs plutôt les châteaux que les églises. Il ne faut pas oublier qu'on est une société de plus en plus laïcisée et qu'effectivement, la question de l'église recule. L'autre jour, j'ai dit au président de la République, mais pourquoi tu n'en prends pas la moitié pour faire des salles de danse? Il m'a dit, non, là, tu exagères un peu. Mais quelque part, ça ne serait pas totalement absurde, vu que ce sont des bâtiments publics. Mais je veux dire, donc, vous voyez, il y a aussi toutes ces transformations. Et puis, une dernière chose, ne soyez pas conservateurs. Je me permets de vous dire ça parce que le problème du tourisme, c'est qu'il faut que s'affronte ce qu'on s'attend à trouver, ce qu'on ne s'attend pas à trouver. Prenons un exemple simple. Cette année, on a bu en France plus de bière que de vin. Et on a bu, comme vin, plus de rosé que de rouge. Bien. Donc, il y a une évolution complète des pratiques de consommation. Parce qu'on développe massivement la bière qu'on fait dans les bars. Elle est fabriquée sur place. Donc, c'est un des produits en plein développement. Mais un territoire comme vous doit faire ça aussi. Parce que les jeunes, eux, c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans le territoire. Oui, d'accord, on est une région de vin, les vins de la Loire, etc. Mais on est dans le coup. On sait que vous, ce qui vous intéresse, c'est la bière brassée sur place. Vous voyez, c'est exactement comme le château de Versailles. Moi, je suis allé quand on a mis une énorme sculpture dans un bassin. Personnellement, je l'ai trouvé horrible. Mais ce n'était pas mon problème. C'était intéressant. Le patrimoine, c'est de la création du passé. Et donc, il faut qu'il reste vivant. Ce que vous faites avec vos maisons d'écriture, bien sûr. Ce que vous faites avec vos vitraux. Mais vous voyez, par exemple, la question de la gastronomie, ça joue. C'est pour ça que je me permets de parler de la bière dans un endroit où on ne devrait pas en parler. Vous voyez, sur tous ces processus-là, voilà, je crois qu'il faut regarder les choses un peu comme ça.
Est-ce qu'on peut arriver sur cette réflexion que vous avez eue autour justement de la réinvention du tourisme sur ces éléments clés que sont à la fois la révolution digitale, la question également du tourisme durable, du tourisme raisonnable auquel vous avez réfléchi, la question du surtourisme, tous ces enjeux qui sont face à nous, face à notre secteur d'activité, de ce que vous pouvez nous en dire par rapport à vos analyses?
On va dire des choses simples. En 68, puisqu'en 68 j'étais déjà ici, il y avait 60 millions de touristes internationaux. Avant la pandémie, il y en avait 1,5 milliard. Mon objectif, c'est 3 milliards. Je pense que 3 milliards de touristes internationaux, ça serait très bien. Parce qu'il faut qu'on construise l'humanité comme projet culturel pour gagner la guerre climatique. Parce que la guerre climatique, on ne peut pas s'en abstraire. On la mènera ensemble, on ne la mènera pas. Et ce qu'on a fait pendant la grande pandémie, puisqu'on s'est mis à 5 milliards et qu'on a sauvé 300 millions de vies en mettant des masques, en ne sortant pas, etc. Mais on a tous fait la même chose, c'est pour ça que ça a été efficace. On est dans la même question. Donc on a besoin d'un commun planétaire, et le tourisme est ce qui nous permet d'habiter la planète. Même si ça a des problèmes de pollution, etc., et qu'ils sont sensibles. Moi, je vais vous dire, une des choses qui m'aime le plus, c'est quand je vois des Chinois dans mon village où j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, il n'y avait pas de Chinois. Il n'y en a pas beaucoup. Et l'autre jour, il y a un bus de Chinois qui s'est arrêté devant mon ami Raymond, qui est à la boucherie. Ils sont tous descendus du bus, ils sont tous rentrés dans la boucherie, ils ont photographié tous les saucissons. Personne ne sait ce qu'ils ont vu. Est-ce que c'était... Ils parlaient pas anglais, ils parlaient que chinois, ils n'ont rien acheté. C'est fantastique, c'est ça la poésie des choses, si vous voulez. En soi, c'est totalement absurde, mais c'est exactement ça qu'il faut se dire. Mais ce bus de Chinois, il était fascinant. Raymond, il n'en est pas revenu encore. Bon, en plus, il espérait vendre quelque chose, il n'a rien vendu, bien sûr, mais bon, évidemment. Mais non, je dis ça pour ça, c'est-à-dire, il faut se dire ça. Et en France, on devra arriver à 80% de départ. Mais pour arriver à 80% de départ, c'est-à-dire, en gros, que les gens qui ont envie partent, on a deux groupes qui nous posent problème, c'est les femmes seules avec enfants, parce que la mobilité des femmes seules est plus faible que les autres. Moi, quand j'ai conseillé le président du club de VVF ou du club Med, le VVF, le tourisme social, c'est Edmond-Mer. On n'acceptait pas les femmes seules, il y a 25 ans, 30 ans. Pourquoi? Parce qu'elles mettent du désordre. Non pas les femmes seules en elles-mêmes, le regard des hommes sur les femmes seules fait que les femmes râlent en disant « t'arrête de la regarder, c'est celle-là qui est toute seule ». Donc, vous savez, c'est pas évident, c'est pour ça que les femmes seules souvent circulent en famille, circulent avec des copines, etc. C'est une clientèle, il y a 1,7 million de femmes seules, 700 000 sont RSA, elles ont 2,5 millions d'enfants. Là, on a une grosse poche de non-départ, un peu indépendante du revenu, c'est pour ça que j'incite. Et la deuxième chose, c'est la partie de la jeunesse. Les jeunesses successives, on les a initiées au tourisme, avec le tourisme social, avec les scouts pour les uns, ou avec tous les mouvements de jeunesse depuis la guerre, parce que le tourisme, ça s'apprend enfant, le voyage. Et après, on retourne toujours au même endroit. 50% de gens se baignent toute leur vie sur la même plage. Le tourisme, c'est pas... Il y a deux choses dans le tourisme. Il y a le voyage. Je fais New York, je fais Venise, je peux me payer un voyage exceptionnel, etc., souvent sans les enfants. Et puis il y a le fait d'aller à un endroit où on est reconnu. Et on va revenir et on va vous dire « Ah, mais Marcel, vous êtes revenu ». C'est-à-dire, au fond, on déplace sa maison. Au fond, on a une résidence secondaire sans en avoir une. Les résidences secondaires, j'ai dit, c'est à peu près 25 à 30 millions de Français qui les utilisent de manière large, mais les campings sont souvent loués d'une année sur l'autre. Moi, j'ai connu des familles qui louent, notamment dans le sud, beaucoup de pieds noirs. Se sont mis à aller à des campings au bord de mer en 62, parce qu'ils regardaient l'Algérie de l'autre côté. Il y a des familles, ils y vont depuis 62, ils sont la troisième génération sur le même lieu, et tous les gens du camping se connaissent depuis 62. Donc le tourisme, c'est des fidélités. Et donc c'est ça aussi qu'il faut voir, et c'est le problème de se dire qu'est-ce que c'est qu'un client fidèle. Parce qu'en moyenne, bon, le tiers supérieur de la société part 5 fois par an pendant à peu près 70 ans, il fait 250 voyages. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? Vous voyez, au Club Med, à l'époque, quand je conseillais le président, au bout de 5 ans, on n'envoyait plus de catalogue aux gens. Je dis non, 10 ans, c'est plus prudent, parce qu'un client, s'il part 250 fois, il peut très bien revenir au Club Med 10 ans après. Donc ça aussi, c'est compliqué de construire la fidélité, de suivre les gens, et ça nous ramène à une autre question, c'est sur le numérique. Il faut que tout client qui vient dans le territoire rentre dans les fichiers numériques. Il faut l'informer, il faut le vieillir. C'est-à-dire que celui qui est venu plusieurs fois dans la région, vous la savez par Internet, il faut arriver, quand il arrive vers 55 ans, Il faut commencer à lui faire des propositions pour sa retraite. Il faut lui dire, ils font ça très bien, les fichiers ordinateurs, hein. Ils leur offrent autre chose. Il ne faut pas oublier que la retraite, c'est quand même le grand secteur économique qui vient dans les territoires touristiques et qui ensuite attire les familles. Et moi, je dis, n'oubliez pas les politiques de cimetières, parce que c'est très important, les cimetières, parce qu'on ne peut plus se faire enterrer dans les villes, donc les gens aiment bien se faire enterrer là où ils viennent en vacances, et du coup, ça fixe les familles, parce qu'ils reviennent tous les ans. Donc, il y a une économie du cimetière importante. Mais chaque fois que j'ai dit ça au ministre du Tourisme, il m'a dit, tu n'es pas sérieux.
Quoi ? Vous nous l'apprenez.
Mais vous savez tous qu'à la Toussaint, on va sur les tombes, il y a de moins en moins, mais enfin, aussi, c'est pas... Non, mais vous voyez, il faut se rendre compte de tous ces liens qui se construisent à travers les pratiques touristiques, dans une époque où, avec le numérique, à la fois c'est un atout, parce qu'effectivement on peut suivre les gens, etc., mais aussi c'est un inconvénient, parce que le numérique concentre les gens. Oui. Parce que les réseaux font que tout le monde se retrouve exactement au même endroit, au même moment, parce que, effectivement, le numérique a fait le buzz, ou un influenceur a fait le buzz, etc. Il vaut mieux que ça soit chez vous qu'ailleurs, mais j'étais à Florence la semaine dernière, excusez-moi, c'est insupportable, je veux dire, parce que les rues sont pleines, on croirait une sortie de match de foot, quoi. Je veux dire, c'est bon, un moment, bon. Donc, on a un énorme problème, c'est de diffuser le tourisme dans le temps et dans l'espace. Alors, et c'est là où le numérique peut nous aider. Moi, je rêve d'un double numérique du territoire. C'est-à-dire que si je veux aller en Touraine, je tape Touraine. Et puis, je vais dire, voilà, j'aimerais bien venir visiter à telle période. Et on va me dire, non, écoute, viens pas là, parce qu'il y aura trop de monde. Mais par contre, on peut te proposer un truc sympa à 25 km, ou on peut te proposer 15 jours plus tard, parce qu'aussi bien, après le 15 août, tu auras plein de place. Ou alors, viens en hiver, tu sais, nous, à Noël, on est très fort, j'ai vu que vous faisiez des choses sur Noël, venez plutôt à Noël. Excusez-moi, si vous voulez aller à Venise, mon conseil, c'est d'y aller en novembre. Il faut s'habiller, il fait froid, mais vous retrouvez un peu de la poétique du lieu. Vous voyez, je pense que le double numérique du territoire est un objet assez indispensable pour que, justement, on prévienne les gens, y compris, on va lui dire, maintenant, les prix seront moins chers, tu vas trouver des prix plus faciles, puisque maintenant, tous les hôtels et les Airbnb, ils ont des prix qui changent au jour le jour. Plus il y a de demandes, plus les prix montent. Donc, si on se décale. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est travailler sur le temps. Moi, je dépends beaucoup ce qu'on appelle la semaine italienne. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de succès, mais c'est l'idée qu'on supprime l'étalement des vacances de Noël et que toutes les familles aient le droit de partir une semaine, d'enlever les enfants de l'école une semaine. Les Italiens le font, ça marche très très bien, parce que de toute façon, ils ont la grippe ou qu'ils sont cassés la jambe, ils manquent aussi l'école. Donc, il vaut mieux, non, mais il vaut mieux votre gamin vous l'emmener en Italie une semaine qu'il manque une semaine de cours. Je lui ai dit, apprendre plus de choses. Et donc, si vous voulez, cette idée de la liberté des enfants et des familles, c'est une façon aussi d'avoir des clients un peu tout le temps, de démocratiser les pratiques, et puis d'arrêter de mettre en février tous les enfants de France devant la télévision, parce qu'il y en a 8% qui font du ski. Ce qui est quand même tout à fait curieux, 92% des enfants restent chez eux 15 jours, alors qu'ils ne font rien, et que les parents travaillent, donc ils regardent la télé, pour 8% qui font du ski. C'est très bien qu'il y ait 8% qui fassent du ski, hein, j'ai rien contre. Mais ce que je veux dire, c'est que le modèle est totalement inégalitaire, et donc je pense que la question du temps est extrêmement importante. Le débat sur la semaine de 4 jours va être là, le télétravail, j'en ai déjà parlé, donc il y a aussi toutes ces questions-là des temporalités qui peuvent permettre de diffuser les publics, qui peuvent permettre de diffuser des choses comme ça. Avec une dernière chose, les gens adorent apprendre. 60% des gens des jardins, les gens adorent apprendre à planter des fleurs, apprendre à tailler des rosiers. Et en ce moment, la grande question, c'est d'apprendre la cuisine. La pandémie nous a montré qu'on ne savait pas cuisiner. Au début de la pandémie, les gens ont tous acheté des pâtes, des surgelés et du papier hygiénique. C'était leur grosse angoisse. Ils avaient des caddies pleins comme ça. C'était trois objets, puisqu'on n'a plus de journaux, il faut bien trouver d'autres solutions. Et puis au bout d'un moment, ils en ont eu marre de manger des pâtes et des surgelés. Et donc, ils se sont remis à voir comment cuisiner. Une région fait ça très très bien, c'est la région Occitane, qui crée partout des maisons de l'alimentation, où effectivement, les gens, j'allais dire Jean Lormeau, les gens comme nous, viennent faire des plats, et ensuite les transmettre, donc il y a des plats du coin, des plats pas du coin, des plats d'immigrés, des plats d'étrangers, etc. Il y a les agriculteurs qui viennent voir qu'est-ce qu'il faut, parce qu'il ne faut pas les mêmes produits pour un couscous, pour une daube, etc. Et puis après on mange, après c'est un restaurant en fait. Mais ça attire énormément de monde, et c'est des endroits où on apprend la cuisine. On apprend, les femmes, ce sont beaucoup des femmes, de fait c'est comme ça, enfin, dans les anciennes générations. Parce que chez les jeunes, c'est plutôt les garçons qui apprennent la cuisine. Les filles, elles veulent montrer qu'elles sont indépendantes, donc elles ne font pas la cuisine. Et donc là, on a une rupture de tradition. Mais si les garçons l'apprennent, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui sache cuisiner. Bon, la question de la cuisine, à mon avis, est une question extrêmement importante, surtout par rapport à vos objectifs de qualité, etc. Et se dire, les gens veulent apprendre, mais sans qu'on leur dise qu'ils apprennent. Vous savez, le tourisme, si vous allez en vacances à côté d'un château, par exemple, et on dit aux gens, t'étais à côté d'un château, ah ouais, c'était vachement bien. Tu l'as visité ? Ah non. Mais il aurait pu le faire. On n'est pas là pour faire les choses aux gens. On est là pour leur permettre de le faire. Peut-être qu'il reviendra pour visiter le château. Donc, si vous voulez, c'est pareil avec les golfs. Les gens sont ravis d'être dans un camping à côté d'un golf, alors qu'il ne faut pas de golf. Mais c'est parce qu'ils auraient pu faire du golf. Et nous, on offre la possibilité de l'action. On n'est pas des professeurs. On offre cette liberté de faire ou de ne pas faire.
Alors, est-ce que ce que vous dites là, c'est en lien avec ce que vous évoquez dans votre dernier ouvrage, L'an zéro du tourisme, la mise en désir d'un territoire et la glamourisation des paysages sur ces logiques d'attractivité en lien avec le numérique?
Oui, mais alors, le rôle du tourisme, c'est l'artialisation des lieux. Je vais quelque part parce que quelqu'un a dit que c'était beau. Si vous prenez Victor Hugo, il disait toujours que la Provence était ignoble. Et qu'il faisait chaud, c'était sale, ça puait partout, et ça devait être vrai. Et puis, au 19e, on s'est mis à aller dans le sud, parce que justement, on n'avait pas encore le chauffage central, et qu'on allait en hiver, sur la Côte d'Azur, parce qu'il faisait moins froid que dans le nord. Puis l'invention du chauffage fait qu'on n'est plus parti dans le sud, parce qu'on a chauffé sa maison, etc. Donc, le tourisme, il est là-dedans. Et donc, chaque fois, il a fallu des gens pour dire que c'était beau. Alors, au début, ça a été le rôle des peintres. Notamment, les peintres de marine ont joué un rôle important au moment du développement du commerce au 18e. Et vous, chez tous les bourgeois, il y avait des tableaux de port, en fait, parce qu'ils avaient des bateaux, des marchandises qui circulaient. Et puis après, il y a eu effectivement toute la peinture sur l'Europe du Nord, et au moment des eaux, au 19e, avec le développement des eaux, des stations thermales, etc. Et puis, on s'est dit, mais il faut qu'on peigne le Sud. Sauf qu'il n'y avait pas de peintres. Donc, on a pris des peintres du Sud qui faisaient les décors Sud, et puis on a fait venir des peintres du Nord pour faire les fonds. Et si vous regardez bien, les fonds sont souvent pas très provençaux. Et d'ailleurs, c'est assez curieux, parce qu'après, on est même allé en Algérie. Mais en Algérie, on voit tous les tableaux avec des dames très décontractées. Jamais une Algérienne se serait mise dans cette position. Donc, on a dû amener des dames de Paris pour les mettre dans les tableaux qu'on a peints à Alger pour avoir justement de la couleur locale. C'est pour dire que la peinture fait ça. Aujourd'hui, après, il y a eu donc le tourisme de la santé. Après, il y a eu le tourisme hivernant. Après, il y a eu le tourisme de la neige au début du XXe siècle. Et puis, a commencé des mouvements populaires. Évidemment, les scouts, les colonies de vacances. Il y avait 4 millions d'enfants qui allaient en colonie de vacances. Il n'y en a plus qu'un million. La colonie de vacances s'effondre. Et donc, si vous voulez, et puis après, on a inventé effectivement les festivals après-guerre. C'était Jean Villard, l'idée de démocratiser la culture, de la sortir des villes, de les amener aux ouvriers et aux ruraux. Et puis après, effectivement, on a découvert le tourisme urbain. Et puis, on a découvert les parcs, etc. Les parcs de nature, Astérix, tous ces machins-là. On est dans tout ça. En ce moment, on est dans une phase de proximité qu'on a appris pendant la pandémie, où on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas si bien que ça sa région et son territoire. Et notamment parce qu'un Français sur deux ne vit pas dans son département de naissance. Donc ça veut dire que la moitié des habitants n'est pas d'ici et que seulement 10% des gens vont mourir dans leur commune de naissance. On est une société très brassée. Mais on ne s'en rend pas compte parce que quand on arrive quelque part, on croit que tous les gens qui sont là sont d'ici. Pour moi, vous êtes tous d'ici. Alors que sans doute que ce n'est pas vrai. Et chaque fois, on se raconte que ceux qui sont là le jour où j'arrive, le type qui s'installe, ben, tous les gens qui vont dans la rue sont d'ici. Mais souviens, c'est arrivé il y a 6 mois. Donc on ne se rend pas compte de ce brassage. Les politiques souvent ont du mal à se rendre compte que la moitié des électeurs ont changé entre deux élections. Il y en a qui devraient s'en apercevoir, ça pourrait les aider. Mais c'est la même question, si vous voulez. Voilà. Donc c'est tout ça en se disant, soyons contradictoires. Manions la tradition et la création. Manions le vin et la bière, valorisons les hôtels et les Airbnb. N'ayons pas, si vous voulez, il faut là-dessus, je pense, qu'un territoire soit hybride dans sa mise en désir. Et cette mise en désir, ensuite, va attirer d'autres métiers. Parce que le tourisme met en désir le territoire, l'éclaire, l'artialise, comme on dit. Alors vous avez le patrimoine, pendant longtemps, les gens pensaient que c'était des carrières de pierre. Le patrimoine n'était pas considéré comme une valeur positive. C'était au contraire, c'est génial, il y a des pierres à récupérer. Regardez tout ce qu'on a mis, on peut promener dans les petits villages et ils ont des magnifiques fenêtres, une belle porte, etc. Chacun s'est servi comme chez soi. Et donc, si vous voulez, ça veut dire que le patrimoine n'est pas respecté. Nous, on l'a construit. On en est un peu prisonnier. Parce que le résident secondaire ou le défenseur du patrimoine, ce qu'il veut, c'est que ça ne change jamais. Parce que si vous achetez une maison pour vos vacances, ou si vous habitez là, vous avez envie que ça soit toujours pareil. Que quand vous revenez, ça soit encore pareil. Donc le tourisme a une double fonction. Il valorise le territoire, il aide à le respecter. Regardez, on respecte le moindre restaurant, etc. Mais en même temps, il refuse le changement. Et donc, les opérateurs du tourisme doivent aussi imposer le changement. Parce que le territoire doit être vivant.
Bien sûr. Comment est-ce que vous appréhendez et vous analysez la question du tourisme durable, tourisme raisonnable ?
Mais il y a plusieurs choses, si vous voulez. comme beaucoup des choses en ce moment, prenez la viande par exemple, on a beaucoup parlé qu'il fallait manger moins de viande, le résultat c'est que la consommation a augmenté de 20%. Donc il faut faire extrêmement attention si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est tous convaincus qu'on mange trop de viande, mais c'est quand même vachement bon. Donc on a une difficulté sur ces sujets, pour ne pas se cacher. Bon. Alors, dans le tourisme rural, il y a plusieurs choses. Il y a le développement du chauto-tourisme, il y a le développement de la marche, il y a le développement... Vous avez un gros atout, c'est que c'est à peu près plat chez vous, voyez. Moi, qui suis d'une région où il y a des collines partout, bon, pour le vélo, tout ça, bon, c'est sûr que ce n'est pas du tout la même situation. Donc, il y a toutes ces pratiques-là, qui sont très importantes. Mais tout le monde ne va pas partir en vélo. La majorité des gens continueront à partir en voiture. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est un outil absolument génial. On peut tout mettre dedans, le chien, les enfants, les ballons, on met tout là-dedans, on ferme le coffre et on démarre. C'est extrêmement commode, on arrive de l'autre côté. Maintenant, en plus, les enfants ont tous des iPhones, donc ils arrêtent de nous casser les pieds. La génération d'avant, les mères se retournaient pour filer des claques parce qu'il y avait trop de bruit. Maintenant, c'est plus la peine, ils ont tous leur iPhone. Donc on arrive très décontracté. Donc là, vous avez tous ces types de pratiques et ces types d'usages. Donc le slow tourisme, c'est important. Mais après, il faut à tout moment... Vous savez, moi, je serais pour que chaque endroit où il y a du tourisme, on fasse un bilan carbone de la destination. Dans le bilan carbone, on met ce que la destination consomme, les produits d'input, les touristes qui viennent. Et puis on se dit, voilà, en 10 ans, on va baisser la destination carbone. Il faut faire des choses par territoire et dans des temps courts pour qu'on puisse s'en saisir dans nos vies. Moi, quand on me dit en 2100, il se passera ça, bon, je suis intéressé, mais enfin, bon, 2100... Vous serez là, mais moi non. Donc, si vous voyez, c'est très long. Donc, il faut faire des choses très courtes. Moi, je dis, il faut faire des bilans carbone sur 10 ans. Il faut dire aux gens, bon, telle commune, à Hoche ou autre, une autre de vos communes, bon, comment on va faire ? Peut-être que la première année, on va passer au bureau aux écoles. Peut-être qu'on va changer, on va mettre des voitures électriques. Peut-être que telle usine, on va lui filer, changer tel système de production. Mais toute la communauté va vivre la diminution de l'empreinte carbone. Il faut le mettre au niveau du territoire. Il faut le mettre au niveau du temps. Et que les touristes soient dans le processus. Alors, non, attendez, peut-être qu'on va faire des parkings à l'extérieur des villes, il y aura des vélos électriques en batterie, on pourra prendre une voiture électrique, mais il y aura aussi un système de transport des valises. Dire, il y a peu d'endroits qui sont prévus pour ça, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut partir de l'idée qu'une fois arrivé à destination, on touche presque plus sa voiture. Mais pour ça, il faut que ça soit possible. Et il faut faire partager cette idée du bilan carbone, je crois, par territoire, et le faire partager sur des temps courts, par exemple de 10 ans, en se disant, bon, par rapport aux objectifs de la COP21, etc., nous, notre territoire, pour arriver à ça, et puis après, on essaye dans l'ensemble des filières, aussi bien la production agricole, les systèmes du bâtiment, les modes de déplacement, de faire des... et de réunir les gens tous les ans pour les motiver là-dessus, pour que les gens... La guerre climatique, c'est notre guerre. C'est une guerre. Il y aura des centaines de millions de morts. Et il y aura évidemment des victimes partout. On a commencé, il y a eu rien qu'en Europe, on estime qu'il y a eu 200 000 morts en 20 ans, mais c'est tout petit. Et donc, si vous voulez, mais en même temps, on va gagner. Et donc, si on ne dit pas qu'on va gagner, on ne gagnera pas. Les Ukrainiens, eux, ils ont cru qu'ils allaient gagner, mais nous, on ne les croyait pas. On leur disait, rappelez-vous, quand le président ukrainien a dit, mais moi, je n'ai pas demandé un taxi pour quitter l'Ukraine, parce que c'est ce que je lui avais proposé, en gros. On lui a dit, sois prudent, tire-toi. Bon. Et c'est la même chose. On ne gagne la guerre climatique que si on est convaincu qu'on va la gagner. Et c'est important parce qu'on a gagné la guerre pandémique. On a sauvé 300 millions de personnes et on n'avait pas de vaccin. Et on a remis le vaccin au centre. Là, on n'a pas de problème technique pour gagner la guerre. On a des problèmes de mode de vie, des problèmes de dépenses. Il faut mettre à peu près 4 500 milliards par an sur la planète et 70 milliards en France, moitié public, moitié privé, et des modifications de mode de vie comme ça, faire des trucs par territoire. Il faut faire ça pour une raison très simple, c'est que 37% des jeunes femmes diplômées disent qu'elles n'auront pas d'enfants parce que ce monde ne les attire pas pour faire des enfants. Mais une société qui ne désire pas faire d'enfants, c'est une société qui meurt. C'est même pas la peine de se battre, je veux dire. Donc il faut remettre le désir d'enfant dans la question. Et pour ça, il faut que les gens aient confiance, parce que je comprends très bien que des jeunes femmes se disent... Là, dans ce monde-là, pourquoi mettre des enfants là-dedans ?
Est-ce qu'on peut revenir sur la question du surtourisme ?
Oui. Oui, je vais vous ramener.
Je souhaitais aussi vous interroger sur ce sujet, puisque c'est une problématique à laquelle un certain nombre de destinations aujourd'hui sont très concrètement confrontées. Et j'étais d'ailleurs surprise d'apprendre, en lisant donc l'un de vos derniers ouvrages, que l'un de vos modèles préférés concernant l'une des voies de sortie du surtourisme, c'est celui de la boîte de nuit. Donc vous dites, il faut penser le tourisme comme une boîte de nuit, et cette proposition, a priori, est celle d'un consultant et analyste, mais vous allez nous le dire vous-même, je pense, M. Doug Lansky, qui a développé cette théorie. Est-ce que véritablement c'est le modèle que vous privilégiez et concrètement comment il se traduit ?
Bon, son modèle est amusant et le modèle de la boîte de nuit, c'est un truc simple si vous voulez, ça veut dire qu'effectivement on ne laisse pas rentrer les gens un par un dans une boîte de nuit. Il faut qu'il y ait la foule, donc on vous fait attendre. Et comme on est un peu raciste, en général, on met deux grands noirs devant la porte parce qu'on est tous convaincus que les noirs sont plus méchants que les blancs. C'est pour ça qu'ils sont dans les services d'ordre, ce qui pourrait se discuter d'un point de vue éthique. Mais enfin, bon, c'est un autre débat. Et donc, effectivement, on vous fait attendre, même s'il pleut et tout, quoi. Et quand vous êtes 100 ou 200 à râler, on vous fait rentrer d'un coup, parce que du coup, on lâche la pression, quoi. Bon. Et donc, effectivement, c'est toute cette question de gérer les flux, mais y compris pour que les gens se racontent une histoire, etc. Mais après, le surtourisme, vous voyez, j'ai travaillé dans mon livre avec les gens de Barcelone, qui est la mairie a été élue pour, enfin, contre le tourisme en réalité. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait c'est beaucoup parce qu'on n'analysait pas. C'est-à-dire les gens qui vont à Barcelone, il y a des publics complètement différents. Il y a les gens qui sont en camping entre Barcelone et la frontière française, c'est là où il y a énormément de touristes. En fait, eux, ils vont une fois à Barcelone parce qu'ils veulent manger sur les Ramblas. Et au fond, c'est leur seul objectif dans Barcelone. Et puis vous avez des gens qui viennent à Barcelone pour du tourisme d'affaires ou des gens qui viennent visiter Barcelone, etc. Donc le gros problème, c'est que tous ces gens n'ont pas les mêmes systèmes d'information pour qu'ils ne se retrouvent pas aux mêmes horaires, aux mêmes endroits. Ils ont énormément travaillé là-dessus. Ils ont amélioré en grande partie la situation. L'autre solution, c'est de gérer les Airbnb, ce que beaucoup de communes ne font pas. Il y a des règles sur les Airbnb, puisqu'en principe, on ne peut louer qu'un certain nombre de jours. Et en plus, l'idée géniale du Airbnb, c'est que j'ouvre ma maison quand je n'y suis pas pour payer mes vacances. Ça, c'était génial. Mais si ça devient un business parallèle, c'est complètement pas du tout l'objectif. Donc, ils ont fait un gros boulot comme ça, en détendant les flux. Et on a regardé, on avait fait la même chose à la Pointe du Raz. On avait reculé, je ne sais pas si vous y en avez des anciens, quand la Pointe du Raz, au début, il y avait tous les comptoirs quasiment au bout, quoi. Les magasins, les boutiques, les parkings et tout, on a tout reculé. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'une bonne partie des gens, du coup, ne vont plus à la Pointe du Raz. Parce que c'est comme le ski. Il y a à peu près le tiers des gens qui vont au ski qui ne skient pas. Ils viennent pour les boîtes de nuit. Les plages, c'est pareil. Il y a à peu près le quart des gens qui ne se baignent pas. Ils viennent pour bronzer et pour draguer. Donc, je veux dire, il y a plein d'usages différents dans un même site. Et effectivement, il faut analyser ces usages et les détendre dans l'espace, les détendre dans le temps, pour essayer effectivement que le surtourisme s'étale. C'est pour ça que j'ai parlé de la semaine italienne, pour étaler dans le temps, mais il peut y avoir d'autres pratiques, il peut y avoir une régulation des ouvertures. Regardez ce qui se passe en ce moment dans la restauration, vous l'avez dit, monsieur. Depuis la pandémie, les gens ont réfléchi. On a passé 2 mois chez nous, alors... 1 million de couples se sont affrontés sur 14 millions, ils ont explosé. Il y a 1 million de couples qui se sont défaits en France, il y a 15% des couples qui ont explosé en Chine, il y a 30% des Américains qui ont quitté leur job. Donc la société est complètement secouée comme ça. Mais ça, c'est la partie de l'échec. Mais les autres, ils ont réfléchi. Ceux qui travaillent dans la restauration, 2 mois chez eux, payés avec leur gosse et leur nana, ou la nana avec leur mec, enfin bon, mais on est quand même vachement bien, on ne se voit jamais. Et les chauffeurs de poids lourds, les mecs qui font, Varsovie, Paris, 2 fois par semaine, ils se sont dit, non mais c'est quoi cette vie de dingue, je dors dans mon camion, je vais chez moi une nuit par semaine et encore. Donc, c'est des métiers où on trouve difficilement du monde. C'était question d'argent. Pour le tourisme, c'est beaucoup des questions de logement. Parce qu'effectivement, le problème, c'est comme ce qui rapporte dans le tourisme, c'est le logement, ben, on n'a pas tendance à bien loger le personnel parce qu'ils prennent la place du client en réalité. Donc il y a une vraie politique. Vous voyez, moi, j'ai de quelques intérêts en Bretagne. On a acheté un hôtel avec des copains pour faire un tiers-lieu. Le tiers-lieu est un objet d'avenir du tourisme. On pourra y revenir, c'est très important. C'est un endroit où je peux venir travailler pendant que je suis en séjour ou si j'habite là avec mon ordinateur. Et c'est très très important parce que ça recrée de nouveaux liens. Mais vous voyez, moi j'ai investi dans un tiers-lieu en Bretagne. Au début, on était 5. Il y avait un hôtel avant sur la Grand Place de Pont-l'Abbé. Bon, je trouve qu'on se remontait au bar. On est quand même contre ce truc qui est fermé depuis des années. Mais c'est sûr, aucun touriste ne peut aller sur un hôtel au centre-ville d'une place qui ne regarde que la place. Et on s'est dit, bon, on va l'acheter. Bon, on a mis chacun 5 000 euros. Bon, on n'était pas très riche. 5 000 euros, ça fait 25 000 euros. On n'a pas l'hôtel pour ce prix-là. On est 129. Et dedans, il y a un tiers de touristes étrangers. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils se dédouanent d'avoir une résidence secondaire. Ils disent, mais attendez, moi j'aide au développement du territoire. Donc ils amènent des capitaux, en fait. Et ça tourne du feu de Dieu, c'est plein de trucs tout le temps. Les gens viennent travailler, il y a un restaurant, des salles de conférence, il y a des salariés, etc. Et donc c'est pour dire... Mais, et puis ça réunit les gens. Parce que moi, dans ce territoire que je connais depuis 40 ans, je connaissais le monde de mes amis touristes. Mais là, dans le tiers-lieu, il y a des gens du coin qui viennent travailler, il y a des jeunes parce qu'ils ont des problèmes informatiques, on sert de structures de conseil à des créateurs d'entreprises, parce que sur les 129 qu'on est, on a des métiers qui permettent d'avoir des informations sur un certain nombre de choses. Et Oui, et donc les tiers-lieux sont des nouvelles maisons du peuple, en fait, numériques, qui articulent tourisme, habitants, nouvelles populations et qui articulent les générations, si on sait y mettre les maisons de services publics pour que les personnes âgées accèdent pour leurs impôts, etc. Vous voyez, mais c'est aussi un lieu de rencontre entre les populations. Le touriste, il faut le penser, c'est la deuxième peau d'un territoire. C'est pas une activité à côté. C'est un moment de tout, parce que l'accueil, c'est aussi bien le pompiste, vous me direz qu'il n'y en a plus, mais enfin bon, c'est tout le monde. Le pompiste. Si on vous a arnaqué au restaurant, l'accueil est raté. Si le prix a explosé, vous voyez, si on vous a piqué votre valise, c'est foutu. Donc il faut que le groupe ait envie d'accueillir, et donc qu'on le respecte, mais en même temps que ça l'amuse. Vous voyez, moi j'habite dans un lieu très touristique, qui est le sud du Luberon, c'est la partie la moins touristique, mais c'est là où je suis le plus subtil. Les touristes nous amusent, parce que nous, on va aux terrasses de bar quand ils arrivent. Parce que s'il n'y a pas de touristes, qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde ? Passer dans la rue, là, on va passer les filles habillées, on va passer les Parisiens, alors ils mettent des souliers avec des chaussettes, des shorts avec des chaussettes. Non, mais alors là, on est déjà mort de rire, parce que ça, enfin, dans le sud, on ne met jamais de chaussettes en short, ça n'existe pas. Enfin, Chirac le faisait, mais bon, il était justement... Mais vous voyez, c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est un jeu de regard. Et donc, on se regarde les uns les autres. Le touriste regarde l'habitant, et l'habitant regarde le touriste. C'est amusant. Et donc, c'est tous ces spectacles qu'il faut comprendre pour créer, au fond, une société touristique. C'est cet échange de regards, de jeux, de fric aussi, de travail, etc. Évidemment, derrière, il y a du business. Mais il n'y a pas que du business. Parce que nos campagnes sont quand même parfois un petit peu ennuyeuses. Et le fait qu'il y ait du monde l'été qui se promène dans la rue, c'est sympathique. Les vieux, regardez les vieux. Moi, j'adore les très vieux qui se tiennent par la main. Il n'y a que ça. En ville, vous ne voyez jamais des gens de 90 ans qui se tiennent en marchant par la main. N'importe quel lieu touristique, vous allez voir des vieux qui se tiennent par la main. C'est émouvant.
En effet. Je souhaitais vous interroger aussi sur la réflexion que vous avez menée autour de la responsabilisation des voyageurs. Le fait de créer de nouveaux réflexes. Vous avez évoqué ce sujet-là dans l'un de vos ouvrages.
Oui, mais c'est-à-dire que si vous voulez, ce qui est très compliqué dans le voyage, c'est qu'on a appris à voyager après-guerre. Vous voyez, dans les années 50, les gens n'étaient jamais partis. Donc, au début, au 19e, quand les élites aristocratiques ont commencé à voyager, l'année d'avant, on envoyait son valet faire le voyage. Et il prenait des notes. Il dit, voilà, tu arrives à Rome, tu seras habillé comme ça, il faut être comme ça, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait les premiers guides de Turin, Johansson, etc. C'était des récits de personnel, en fait, parce qu'on voulait savoir comment il fallait faire. Qu'est-ce qu'on met comme souliers à Venise, par exemple ? Ça a l'air con, mais pour quelqu'un qui va à Venise en 1850, c'est important. Donc, ça s'est développé. Et puis, on a appris, nous, à voyager, en général après-guerre, avec l'école, avec les mouvements d'éducation populaire, etc., les églises, qui ont joué un rôle important. Et puis, à un moment, on a su voyager. Et le numérique nous offre cette possibilité. On voit bien, on regarde plus la route. On tape la destination, et puis on suit la machine. Et donc, un des grands problèmes, c'est de reprendre pouvoir sur son espace. Par exemple, se racheter une carte, c'est essentiel. Circuler avec ne pas utiliser Mappy, c'est très bien. Mais le fait d'avoir une carte, peut-être que les offices du tourisme peuvent offrir des cartes, que les gens circulent sur un territoire. Eh oui, bon. Et derrière ça, si vous voulez, il y a toutes ces réflexions-là à avoir sur ces façons de voyager. Parce qu'aujourd'hui, les professionnels n'ont plus tout à fait la même fonction. Parce que, d'ailleurs, il y a beaucoup d'agences de voyage qui ont fermé. Parce qu'on peut organiser son voyage tout seul. C'est ça, Internet aussi. Et donc la question, c'est comment les professionnels se retrouvent des fonctions sur, effectivement, la façon de voyager, les choses à découvrir. C'est tout le travail d'offrir aux gens la possibilité d'aller ailleurs. C'est-à-dire, ils sont ici, mais peut-être qu'à 20 km, il y a quelque chose de génial. Alors c'est compliqué parce que le problème des métiers du tourisme, c'est plutôt d'amener les gens chez soi. Et en plus, il faut faire attention, les gens ne visitent jamais un département. Donc il faut faire attention, la destination département n'est pas une destination. La vallée de la Loire est une destination, la Touraine est une destination. Mais il ne faut pas prendre les institutions pour des destinations. Vous voyez, en Provence, on s'est battu pour dire, les gens vont en Provence, ils ne vont pas dans les Bouches-du-Rhône. Alors Bouches-du-Rhône, c'est une idée négative. Vous n'allez pas dans les Bouches-du-Rhône, ça fait mafia, Guérini, tout ça. Enfin, donc vous allez plutôt en Provence, là ça fait beaucoup mieux Aix, Cézanne, etc. Bon. Donc les destinations jouent beaucoup. Et puis après, il faut se dire une chose, il faut très bien connaître ces publics. Et vous savez, dans les touristes, il y a différents publics. Il y a les gens du coin qui sont les premiers touristes, c'est-à-dire ceux qui vont le dimanche après-midi faire un truc, tout ça. Bon. Il y a les gens qui habitent à une heure de voiture. Ils vont venir de temps en temps. Mais ceux-là, il faut qu'il y ait un événement. pour qu'ils reviennent. Donc c'est votre boulot tous les ans, tous les deux ans, de faire un événement qui fait qu'on a « Ah tiens, on y retourne, t'as vu, ils ont fait un truc sympa pour Noël, la fête de la Saint-Jean, etc. » Donc eux, il leur faut une petite accroche parce qu'ils ne sont pas très loin. Mais le mec qui vient du Japon, ce n'est pas la peine de se fatiguer. S'il fait les châteaux de la Loire, que vous fassiez une petite animation, ce n'est pas du tout pour ça qu'il va venir. Il lui va venir deux fois dans sa vie en Europe, et donc lui, il va venir parce que vous avez refait les jardins, parce qu'effectivement, il a vu... Alors, il y a une chose qui marche très bien en ce moment, c'est les séries télé. Et notre, regardez le château de Chantilly, par exemple, ils avaient un gros problème pour le faire fonctionner, et le maire était malin, et du coup, ils se sont dit, on va embaucher un Chinois, une Chinoise. Ils sont allés à Langzhou, à Paris, ils ont embauché une Chinoise en se disant, il faut qu'on développe le tourisme chinois. Et la Chinoise les a emmenés à Shanghai, à la foire des sitcoms. Et depuis, il y a plein de scènes d'amour qui sont tournées dans le château. Dans les séries chinoises, il y a plein de scènes d'amour qui sont tournées à Chantilly. Il y a des dizaines de milliers de Chinois qui viennent à Chantilly pour voir la chambre ou la jeune actrice, etc. Excusez-moi, c'est plutôt l'intérêt pour la jeune actrice dans ces cas-là. Et donc, on est là dans ces modèles. Donc, le fait de rentrer dans le monde des séries est important, comme dans Thalassa. Mais honnêtement, Émilie, parler de la série, Émilie in Paris, a un effet dans le déplacement des banques anglaises sur Paris, c'est fascinant. Il y a 2900 banquiers, quand on leur a dit « Pourquoi vous êtes allés à Paris ?», ils disent « Parce que j'ai vu la série ». Donc, si vous voulez, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est-à-dire que dans un monde comme celui-là, si une belle scène ici, ça va attraîner des... Alors, il faut après se demander les flux que l'on va tirer, je veux dire. Mais en ce moment, ce n'est plus la peinture, ce n'est plus la littérature, comme ça peut être à une époque, c'est les séries télé qui construisent les destinations. Et donc, il faut que vous réfléchissiez à ça, et en fonction des publics que vous visez, que vous vous bâtiez. Alors, en général, on le fait, parce que les régions ici ont des politiques de films, etc., déjà tout à fait important. Mais regardez la série sur Marseille, qui a été faite avec Depardieu, contribue au développement de la ville, avec le fait qu'on avait transformé le centre-ville, ça, c'était moi qui l'avais fait, donc je d'articule les deux, mais la série sur Marseille est venue faire rêver sur cette ville, alors en en montrant le côté canaille. Mais si on va à Marseille, c'est parce que c'est canaille. Mais on n'a rien contre le canaille. Tous les soirs, quand on regarde des films, s'il n'y a pas quelques meurtres et quelques viols, on ferme l'écran. Donc il faut quand même un peu d'activité, au moins cinématographique, à défaut que ce soit dans la réalité. Donc vous voyez, c'est tout ça. Dans des régions comme ça, c'est aussi des questions à se poser.
Ico. On a quelques minutes peut-être encore pour que vous nous éclairiez également sur votre approche de la question de l'innovation, au-delà de tout ce que vous nous avez déjà dit. Et puis on ouvrira ensuite, si vous le voulez bien, un échange avec la salle, de manière à prendre quelques questions auxquelles vous pourriez répondre. Donc sur l'innovation, si vous voulez bien, Monsieur Jean Viard.
Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'innovation ?
Voilà, votre approche, toujours dans cette logique de réinventer le tourisme. Alors, on n'a que quelques minutes avant de lancer l'échange avec la salle.
Il faut, vous savez, on n'est pas maître de l'artialisation des lieux. Regardez, celui qui aura le tombeau de Brigitte Bardot, il a des clients pour 50 ans. C'est une bonne destination. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit fait pour vous, mais je veux dire par là, vous voyez, vous avez effectivement Ronsard, je préfère, c'est moins populaire quand même. Donc le problème, c'est de se poser ce genre de questions, c'est-à-dire comment on va arriver, c'est ça qui fait l'innovation. Si vous voulez. Après, il y a un rapport au corps qui a changé, pour une raison très simple, c'est qu'on vit beaucoup plus longtemps et que nos vies sentimentales ne s'arrêtent plus. Avant, si on lisait Balzac, la femme de 30 ans, bon, après 30 ans, hein, bon. Aujourd'hui, on veut rester beau tout le temps, on veut rester mince, on veut rester amoureux, on change d'ailleurs de partenaire, et donc effectivement, on veut avoir un corps à la hauteur de ça, par exemple. Donc, c'est clair qu'il y a plein d'activités du corps pendant les vacances qui sont le moment où on se raconte qu'on va faire du sport. Tout le monde s'y met en général vers le 15 juin, d'ailleurs, avec un résultat assez faible, parce qu'effectivement, sur une période aussi courte, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, bon, si on a perdu 3 kilos, on n'a pas tout perdu. Mais vous voyez, pendant les vacances, ce rapport au corps joue beaucoup. Et puis, il y a une chose qui a beaucoup changé, c'est pour ça que je vous dis, observez la réalité. Tout est écrit dans le réel. Regardez les familles, par exemple. Bon, moi, je conseille quelques hôtels, notamment un hôtel en baie de Somme, quand on l'a racheté, moi je n'ai pas d'intérêt dans l'affaire, mais mes copains l'ont racheté il y a 30 ans, c'est un hôtel qui était en faillite, un hôtel 2 étoiles, mais il était très très bien placé. On n'a pas fait des salles de bain, on n'a pas fait comme tout le monde, on a laissé les salles de bain collectives et tout, mais on a développé les services de garde d'enfants. Ce qu'on offrait en gros, c'était des soirées canailles aux parents et on gardait les enfants. On était plein tout le temps, alors que les autres laissaient les enfants dans les chambres. Mais dans le même hôtel maintenant, si on enlève les enfants des chambres, les parents ne viennent plus. Parce que comme les dames travaillent massivement, ben, les vacances, les week-ends, c'est en famille, quoi. Et donc, on est content de sauter sur le lit en famille. Vous voyez, sur 30 ans, 25 ans, sur un même lieu. Donc, c'est ça qu'il faut observer. comment les gens ont envie de vivre. Et ne les regardons pas à travers nos propres yeux. Vous voyez, 63% des bébés naissent hors mariage, 30% des couples sont recomposés, 10% des couples sont du même sexe. Donc, c'est ça la réalité du marché. En plus, les couples du même sexe ont souvent plus de revenus parce qu'ils n'ont pas les enfants qui leur bouffent le pognon. Donc, c'est des bons clients, je veux dire, en matière touristique. C'est des bons clients. Donc, si vous voulez, je dis ça, je fais exprès de le dire comme ça, mais bon, j'avais proposé en Bretagne que la Côte Rose soit spécialisée. Alors là, le président de région, non, mais Jean, tu exagères quand même. Je dis, mais t'as la chance d'avoir une Côte Rose, donc profitons-en. Mais bon, mon humour ne plaît pas toujours. Mais si vous voulez, ça, sur toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut observer. Il faut simplement observer la vie des gens. Et si vous voulez se dire, il faut mettre du sens pour que les gens qui viennent ici, ils aient l'impression de s'inscrire dans la bataille climatique, qu'on leur a fait des offres, qu'on leur a dit que les produits sont terroirs, le personnel a besoin de ça. Si vous voyez, si vous voulez embaucher un jeune chez Total, c'est vachement dur. Si vous voulez l'embaucher dans une entreprise, une start-up écolo, c'est très facile. On a en ce moment besoin du sens pour nous dans nos métiers et effectivement du sens du projet qu'on porte. Et ce sens, il est porté, bien sûr, par la mémoire, mais il est aussi porté par la bataille climatique. Donc il faut en permanence que ce soit les hôtels, les restaurants, les promenades, il ne faut pas que ça soit une mise en scène. Ce n'est pas du greenwashing, on l'a trop fait, c'est dangereux, ça casse tout, je veux dire. Il faut effectivement que les promenades dans les arbres, les planches, elles soient du coin. Enfin, vous voyez, que tout ce discours soit réel et que ça crée des secteurs d'économie croisés. Vous savez, les Américains travaillent beaucoup sur un concept que j'adore, c'est l'économie forestière. L'économie écolo de demain sera forestière. Ça veut dire que tout est mélangé. Ça veut dire que les déchets du garagiste vont servir à fabriquer des casseroles qui vont servir à faire la soupe, etc. C'est-à-dire qu'on a segmenté nos économies, on a segmenté nos territoires, zones industrielles, zones d'habitat, HLM, etc. On est un pays, on a fait 63 800 ronds-points. Mais c'est du délire. Les Américains en ont fait 10 000, les Allemands 5 000. Ils n'ont pas envie plus de... Nous, un maire qui ne fait pas un rond-point tous les ans, il n'est jamais réélu. Donc toute la campagne est parsemée d'énormes machins, vous tournez autour. Et puis après, on élargit la route. Puis comme les gens se rentrent dedans, on met des ralentisseurs. Et comme c'est la même entreprise qui fait les trois chantiers, c'est sûr qu'entre deux élections, c'est génial. Mais c'est d'une absurdité totale. Et vous voyez, non, mais je dis ça parce que c'est des milliards qu'on a mis. Des milliards. Vous allez en Angleterre, le lac du Loch Ness, par exemple. La petite route, là. Eh bien, on ne peut pas se croiser. Bon, ils s'en foutent, les Anglais. Il y a des parkings, ils s'arrêtent et puis ils se reviennent. Et c'est le pays du monde, il y a le moins d'accidents. Mais nous, on fait des routes droites, puis après, on dit, ça se déroule, ils se rentrent dedans. Mais non. Donc, il faut se dire, il faut se reglisser dans le territoire. Il faut se reglisser dans ces manières-là, il faut se reglisser dans la nourriture. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut faire en se disant, les gens aiment apprendre, mais ils n'aiment pas qu'on leur apprenne de manière volontaire. Il faut que ça soit glissé comme ça dans le quotidien. Et au fond, c'est une question de respect de l'autre, quoi. C'est toujours ça. De respecter l'autre, de se dire que, vous savez, les gens, ils cherchent du lien. On cherche tous du lien. 82% des gens sont heureux d'aller travailler parce qu'il y a les autres salariés. Et ils sont que 65% à aller travailler pour l'intérêt du métier. C'est-à-dire que le premier intérêt du travail, c'est les autres. Mais alors, plus encore pendant les vacances. Ce qu'on cherche d'abord, c'est du lien, des sourires, des amours, des plaisanteries. Et c'est ça le cœur des choses, si vous voulez. Il ne faut jamais l'oublier.
C'est toujours aussi passionnant de vous écouter, Jean Viard. Un grand merci pour avoir partagé votre expérience, vos analyses. Merci beaucoup. J'invite maintenant celles et ceux qui souhaitent poser une question à Jean Viard à se manifester. La première question, c'est jamais la plus simple.
Pas tous en même temps.
Il y a une question là, sur la... Au deuxième rang.
Merci, bonsoir. Fabien Houzet, vice-président développement économique, bonsoir. Et commerce et tourisme du Castel-Renaudet, au nord du département. J'avais une petite question. Enfin, alors déjà, je bois vos paroles. J'adore effectivement votre façon de voir les choses. Je voulais avoir une petite précision et surtout une question sur le mode de déplacement de demain, parce qu'en fait on est sur des voitures électriques qui vont en autonomie 300-400 km maximum pour l'instant, et du coup en fait est-ce que ça va pas réduire à terme les déplacements et que les gens vont aller moins loin?
Écoutez, je pense pas. Alors pourquoi? Parce qu'en ce moment, on est comme toujours en Europe, on n'est pas très très finaux sur des trucs comme ça. On est tout content parce qu'on fait des très grosses voitures électriques. Et on est content, elles sont grosses. Les Chinois font des petites voitures électriques. Parce qu'au fond, la question, elle est, est-ce qu'on va inventer des systèmes de recharge rapide ou est-ce qu'on va rouler longtemps? Parce que si on met 3 minutes à charger sa voiture, elle, parce que c'est très lourd les batteries, hein, donc si on met 3 minutes, enfin si c'est pas plus long que l'essence, il n'a aucun intérêt à ce que la voiture fasse 1000 km. Elle peut faire 400 et c'est déjà très bien. Donc là, il y a combat entre ces deux modèles économiques. Évidemment, l'Europe a joué la distance, parce que c'est Mercedes, parce que c'est toutes ces marques qui jouent sur nous. On garantit Mercedes, ils garantissent 1000 km maintenant. Mais est-ce que c'est ça l'objectif? C'est penser le monde avant qu'il y ait des stations partout et avant qu'on recharge rapidement. Et moi, je pense, si vous voulez, qu'en fait, la recharge rapide va se développer très très vite et que les nouvelles batteries, dans 5 ou 10 ans... C'est pour ça qu'en ce moment, je vous conseille surtout, n'achetez surtout pas une voiture électrique. Louez-la. Parce qu'elle va tellement changer vite que vous ne pourrez jamais la revendre, en réalité, parce qu'elle n'a pas de marché de l'occasion, bon, ou difficilement. Donc, vous voyez, c'est pour ça, moi, je suis très optimiste sur la voiture électrique, mais dans cette idée-là, si vous voulez, de ce type d'usage-là. Alors, en plus, il faut bien voir qu'on va, je pense, autoriser la conduite à 16 ou 17 ans pour les jeunes, hein, cette année, je pense, en France. Moi, je suis assez favorable à 16 ans, j'avais travaillé là-dessus il y a quelques années. Bon, puis on risque de s'arrêter à 17 ans. Les Américains conduisent à 16 ans. Donc c'est important aussi, ça veut dire que la jeunesse va gagner en mobilité. Les jeunes, à 16 ans, ont très peu d'accidents. Ils commencent à avoir des accidents vers 17-18 ans. En gros, ils commencent à avoir des accidents quand ils font les cons, garçons et filles, alcool, etc. Mais ceux les plus petits, en fait, paradoxalement, ils sont encore trop petits. Enfin, c'est avant, on va dire, puisque le premier rapport sentimental, c'est 16 ans et 6 mois. Donc on est encore dans cette période-là. Et donc, si vous voulez, c'est des choses comme ça. Mais donc moi, là-dessus, je répondrai que je pense que la voiture plutôt légère, et qui effectivement se recharge souvent, est sans doute un avenir du déplacement. De toute façon, soyons honnêtes, des voitures à essence, il y en aura encore longtemps, parce que ça va être qu'en 2035, et les voitures, une bonne voiture, ça peut durer 20 ou 25 ans, si on ne fait pas énormément de kilomètres, donc on a encore des voitures pendant longtemps, mais donc je pense que la voiture électrique est une solution, et moi je crois beaucoup à la voiture électrique qui se recharge vite, donc il faut observer l'évolution des systèmes de recharge, je crois.
D'autres questions? Oui. Regardez, là, vous avez... Oui, oui.
Bonjour.
Qu'on leur demande de se lever? Bonjour. On vous écoute.
Donc, je suis Johanna Boctor, architecte du patrimoine. Et moi, j'ai eu un petit sentiment de malaise, je ne me sentais pas très à l'aise quand vous avez parlé du sujet de la bière. Sur le fait qu'il fallait associer tradition et création, et je me demandais si cette association-là, elle n'était pas un peu risquée sur le fait qu'on dérive sur plutôt un effet de mode associé à la tradition, avec le risque qu'il comporte comme une perte de savoir-faire ou une uniformisation des lieux, et peut-être finalement une dimension peu durable dans cet effet de mode.
Vous savez, d'abord, je n'ai pas forcément de réponse juste à votre question. Je crois que le patrimoine, c'est extraordinaire, mais en même temps, ça fixe. Or, le monde change. Et donc, le patrimoine, c'est une richesse de le connaître, de le respecter, etc. En France, on en a quand même un peu fait un mausolée. Moi, j'aime bien aussi le rapport des Japonais. Vous savez, vous connaissez ça mieux que moi, mais où effectivement, eux, pour eux, le patrimoine, c'est démolir les temples et les reconstruire à l'identique qu'avant. Ils sont toujours neufs, leurs trucs, mais ils sont faits avec les mêmes techniques qu'il y a 2000 ans. C'est la transmission du savoir-faire, pour eux, le patrimoine. C'est pas l'objet. Bon. Alors que nous, c'est l'objet. Aussi le savoir-faire, mais l'objet. Bon, ça, c'est une première remarque. Donc, si vous voulez, sur toutes ces questions. La deuxième, c'est qu'on vit dans un monde ouvert. Vous voyez, moi, je plaide pour la légalisation du hashish, si vous voulez. Comment vous voulez que des jeunes, qui, dans leur famille, de l'autre côté de la Méditerranée, on fume du hash, quand ils viennent ici, on boit de l'alcool. Et là-bas, le hash est interdit. La mondialisation des vices fait partie de la mondialisation. Et c'est exactement la même chose. L'alcool, la bière, est le premier produit planétaire buvé. Donc, effectivement, il se mondialise par les séries télé, etc. Et il a un intérêt, c'est qu'il est local, parce qu'il est chaque fois fabriqué dans le bar. Donc, il vend une autre idée. Et regardez le recul du Bordeaux. Le Bordeaux est en crise profonde. Parce qu'effectivement, ils sont bâtis sur un modèle qui est relativement périmé, alors que le rosé s'est extrêmement adapté, il a beaucoup évolué en qualité, et donc les quantités de rosé vendues. Mais attendez, le rosé, il vendange la nuit, les mecs. Hein, pour que le rosé soit meilleur, les caves ouvrent à minuit et ferment à 6 heures du matin. Vous voyez le boulot de vendanger la nuit dans le noir, etc. Mais ils arrivent à des résultats extraordinaires. Donc je crois que les deux choses sont complémentaires. Je ne dis pas du tout qu'il faut arrêter le vignoble de la vallée de la Loire, ça serait une tragédie. Mais si vous voulez, j'insiste sur la bière parce que si vous voulez attirer les jeunes, si vous voulez attirer ces nouvelles populations, il faut toujours se dire qu'un jeune, c'est un client potentiel pour 70 ans. Ce n'est pas simplement qu'il va venir une fois, c'est qu'il peut revenir, il peut même venir prendre sa retraite ici, il peut venir travailler, créer une famille, etc. Donc il faut s'ouvrir aux jeunes. Et les jeunes actuellement, ils sont là-dedans. Et est-ce que c'est une mode ? Ben, on verra bien. Toutes ces brasseries se développent dans tous les pays développés, absolument partout. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple un peu pour vous énerver aussi. Mais la question du rosé, c'est la même chose, je veux dire, si vous voulez. Le Bordeaux, ils sont en train, ils sont plein d'exploitations qui sont en faillite dans le Bordelais. Parce qu'à force de ne pas avoir regardé l'évolution du monde, ben, effectivement, ils n'y arrivent pas. Et donc, si vous voulez, il faut bien se dire qu'on est dans une mondialisation des pratiques sociales. Et la question, c'est comment on garde notre identité sans nier cette mondialisation. Vous avez des chaînes hôtelières, vous êtes sur leurs ordinateurs et vous arrivez à l'autre bout du monde, ils savent déjà que vous aimez avoir deux oreillers et du café le matin. En soi, c'est totalement absurde, mais en même temps, c'est sympa. Vous arrivez au Japon, « Ah, monsieur Biard, vous aimez le café, je vous monte une petite tasse. » Bon, vous dites quand même, celui-là, bon, simplement, c'est qu'il a un bon ordinateur. Mais, je veux dire, c'est vous voyez, donc là-dessus, je pense qu'il faut accepter de rentrer dans ce monde, mais en réfléchissant pour protéger notre patrimoine, notre culture, nos auteurs, etc. Mais si on le fait de façon conservatrice, on perdra. Il faut le faire de façon ouverte au changement. Je crois que c'est ça la vraie question.
Il y a une autre question, là. On vous écoute.
Bonjour, je suis Jean-François Souchard. Je suis gérant d'une petite boîte de location de canoë, vélo, bistrot, camping. Et en fait, depuis 16 ans, je m'aperçois qu'à peu près 80% de mon chiffre d'affaires, je le fais en juillet-août, alors que je fais...
Non, j'ai monté.
Ah, pardon, excusez-moi.
Parce que je vous voyais pas.
Ah, d'accord, pardon.
Excusez-moi.
Non, oui. c'est moi.
Non,
donc, je fais à peu près 80% de mon chiffre d'affaires en juillet-août, alors que je fais énormément d'efforts pour commencer le 1er avril et accueillir les derniers clients, même quasiment jusqu'à fin octobre. Alors, quelque part, c'est rassurant, parce que je me dis finalement, pourquoi je ne travaillerai pas que deux mois hein, Voilà. Mais en même temps, je trouve ça triste, parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Et il y a même une année où il y a eu une météo catastrophique, je pensais que ça allait être vraiment très compliqué, et finalement, le chiffre d'affaires, on l'a quasiment fait en un mois, un gros mois, en cinq semaines. Mm-hmm. Et donc je ne sais pas, le fait que tout le tourisme soit concentré comme ça, sur deux mois, vous n'en avez pas parlé, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Mais si vous voulez, la France, avec la Russie, la Chine, on est des gens, on a tous décidé qu'on part tous en vacances ensemble. Les rares pays à faire ça. Nous, on a décidé en 1936 qu'on partait en vacances du 1er au 15 août. Et puis, on a décidé en 1981 qu'on partait en vacances entre Noël et Jour de l'An. Bon. Et donc, on a fait deux périodes où la société s'arrête. Et puis après, on grignote un peu autour. Bon. Parce que si c'est des modèles rationalistes, à mon avis, ça renvoie sur le rond-point. D'ailleurs, c'est très amusant de voir que quand les Chinois ont développé le tourisme il y a une dizaine d'années, ils sont venus en France. Ils sont très intéressés, notamment par nos parcs naturels régionaux. Ils trouvent que c'est un outil. Et puis, par cette règle. Et la première année, ils ont mis tout le monde en vacances en même temps. Mais vous savez qu'il y a des gens qui n'ont jamais quitté les autoroutes autour de Pékin. Hein. Ils y sont restés une semaine. Hein. Tout s'est bloqué. Bon, c'était assez fascinant de voir l'absurdité d'une hyper-rationalité. Donc, si vous voulez, là-dessus, c'est pour ça, j'entends bien ce que vous dites et la souffrance que vous avez. En même temps, en ce moment, tout change, si vous voulez. D'abord parce qu'il y a des populations nouvelles entourées. Il y a tout l'entrant des jeunes retraités, qui sont une population extrêmement intéressante, notamment les camping-cars, alors que souvent on ne les aime pas parce que l'objet lui-même, on n'arrête pas de le mettre de côté, donc c'est compliqué, mais il est clair que là, il y a une clientèle extrêmement importante, c'est pour ça que je parle de la semaine anglaise. Donc si vous voulez, c'est moins concentré qu'avant, mais c'est encore effectivement extrêmement concentré, vous avez raison. Après, sur tous ces métiers, vous voyez, moi je regarde beaucoup les restaurants, en ce moment il y en a beaucoup, par exemple, qui travaillent 7 jours sur 7, qui ferment un jour, il y en a beaucoup qui ne servent plus le soir, ils ouvrent à midi dans les hôtels, le soir ils laissent la nourriture en libre-service, parce que la question qu'on a, c'est comment on remet des conditions de vie dans le temps du tourisme possible, c'est très compliqué, donc il y a la question du temps, il y a ce que vous dites, donc il faut, mais c'est là où le télétravail est un atout, c'est pour ça que je plaide pour les tiers-lieux, parce que c'est une région ici, vous êtes exactement à la distance idéale pour attirer des milliers de Parisiens qui iront à Paris un jour par semaine, ou deux jours. Vous voyez, moi je travaille à Paris de l'autre côté pour la Défense, et on travaille avec de Ports en Part, l'architecte, sur comment on pourrait construire des logements sur la dalle, en bois, où les gens auraient le même logement, mais pas un studio, un petit appartement. On ferait des milliers de petits appartements, et les gens les loueraient deux jours par semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, puis le week-end pour des touristes. Et on enlève tout. On enlève les tableaux, les objets, ils partent les mains dans les poches, et on lave le linge, on repasse tout, et quand ils reviennent, on a remis les tableaux, on a remis les trucs, ils trouvent leurs culottes dans le placard, leur veste dans le truc, et le même appart sert 3 fois par semaine. Et on va vers ce mode d'utilisation. Et donc, si vous voulez, il faut penser ça, et donc à l'autre bout, ça veut dire qu'il faut faire des tiers-lieux par commune, il en faut dans chaque commune 10 000 habitants, 15 000, même plus petits. Et donc il faut effectivement qu'on multiplie la possibilité que les gens restent plus longtemps. Alors ça sera surtout les gens qui n'ont pas d'enfants à l'école. Il y a un autre produit, moi, à Narbonne, j'ai beaucoup travaillé avec eux, parce que Narbonne me disait, mais comment on peut se développer? Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai dit, vous, il n'y a qu'une seule règle, vous êtes à moins d'une heure de Montpellier, garantissez que vous prenez tous les enfants en crèche, démerdez-vous, construisez des crèches partout et dites-nous, on prend tous les enfants en crèche. Et bien il y a des gens qui sont venus de Montpellier habiter à Narbonne parce qu'il y a un service enfant qui est merveilleux et qu'il n'y a pas à Montpellier parce que la ville s'est développée trop vite. Donc il faut attirer les gens, j'allais dire, avec ce qui les attire ici, des tiers-lieux et des crèches. Vous gagneriez beaucoup de population qui pourrait toute l'année aller dans un certain nombre de lieux de divertissement.
Et la réduction de ces 2 mois là, c'est pas, vous n'en parlez pas,
c'est pas mais si vous voulez, c'est les entreprises qui décident les dates de vacances. Et si vous voulez, c'est vrai que la rationalité française est comme ça, et ça veut dire que vous n'avez pas de fournisseurs, etc. Je veux dire, l'organisation de la société française est extrêmement rationnelle, et la vérité, c'est qu'on est rentré dans une société où c'est l'école qui détermine les emplois du temps, et que c'est l'école qui fait les agendas. D'ailleurs, on voit tous que le mercredi, il n'y a plus d'embouteillage, que dès que c'est les vacances scolaires, il n'y a plus de bouchons, etc. Et on est dans une société scolaire. On passe dans sa vie 30 000 heures à l'école, si on fait bac plus 2, et 70 000 heures au travail, sur une vie de 700 000 heures, hein, puisqu'on travaille à peu près 10% de notre vie, et on étudie 5%. On est à peu près dans ce ratio-là. Donc, si vous voulez, c'est le temps scolaire qui structure la société. Et donc, on ne peut pas sortir du temps scolaire. Il faut, quand on veut retravailler les temps, aujourd'hui, il faut repartir du temps de l'école. Or, il se trouve qu'avec le réchauffement climatique, les cours l'été vont être de plus en plus compliqués. Parce que faire que toutes nos écoles soient isolées ou faire qu'elles soient climatisées, ce qui serait écologiquement problématique, ne se fera pas. Donc l'idée de réduire les vacances d'été va être de plus en plus compliquée avec le réchauffement climatique. Donc vous voyez, il faut avoir tout ça dans l'œil. C'est pour ça que je pense qu'on ne va pas réduire les vacances d'été à cause de ça.
Question dans le fond.
Bonjour, je m'appelle Vincent Simon, je suis cuisinier. J'aurais voulu connaître votre ressenti sur le repas en Touraine en 2030. C'est-à-dire que moi, j'ai une cinquantaine d'années. En 1990, je faisais des menus 6 services. Aujourd'hui, je fais des formules entrée plat dessert, assez gourmandes, assez bien axées sur les légumes, les céréales, quand même avec de la très bonne viande. Autant manger de la viande, mais de la très bonne. Et j'aurais voulu avoir votre ressenti sur ce que je pourrais servir en 2030, par exemple.
Ben, moi, j'aime beaucoup Thierry Max, qui dit on va passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Et je pense que c'est assez juste. C'est-à-dire qu'en fait, la part de viande a déjà beaucoup diminué. C'est comme le vin. Aujourd'hui, on sert le vin au verre. Quand j'étais jeune, on servait la bouteille. Bon. Donc on a là un rapport à toutes ces choses qui a profondément changé. Vous voyez, quand je conseillais Edmond Maire à la présidence de VVF, je m'étais rendu compte qu'à midi, on préparait des gueuletons énormes. C'était la culture ouvrière de l'après-guerre, où en gros, le prolo, à midi, il mange et après, il dort. Bon, c'était ça les vacances, quoi, si je peux me permettre, plus quelques activités périphériques. Donc, du coup, effectivement, on s'est dit, non, attendez, c'est plus ça que les gens veulent. Ils veulent une tomate, une tranche de jambon, emmener dans un petit sac élégant sur la plage, et voilà. Et puis le soir, par contre, on les fait manger. Bon. Donc, si vous voulez, on a évolué là-dessus. Et je pense que c'est bien ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que le repas de midi reste une tradition. La France est un des pays. En plus, les différents pays d'Europe n'ont pas du tout le même rapport au repas. Nous, on est un des rares pays où on reste encore aussi longtemps à table. Donc, si vous voulez. Mais il faut le défendre, je dirais, ça fait partie du patrimoine culturel. Donc les gens qui viennent en France, il faut qu'ils mangent dans ce temps-là, je crois que c'est important. Mais effectivement, je pense qu'on va manger de plus en plus léger, surtout à midi, et effectivement avec de moins en moins de plats, dans une culture du choix. Donc c'est pas un hasard si le plat le préféré des Français aujourd'hui, c'est le couscous. Alors qu'on pourrait penser que c'est avec tous les problèmes que les gens ont avec les mêmes qui vous tiennent des discours incroyables sur les immigrés, ils adorent le couscous, donc il n'y a pas de lien. D'ailleurs, ils vous disent c'est le couscous garbi, c'est le couscous des pieds noirs, en fait, hein, c'est pas le même. Donc, si vous voulez, donc c'est clair parce que le couscous, il y a beaucoup de légumes, il y a en fait assez peu de viande, donc c'était une espèce de soupe, en même temps, il y a tout ça. Donc, je pense qu'il y a une évolution des cuisines, qui va se faire avec ça, et que les riches cuisines, je dirais, de nos ancêtres, une partie va se perdre. Donc il faut garder un certain nombre de choses, mais dans une société où on va manger moins, y compris parce qu'on se développe, on se déplace moins physiquement. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas fatigué, on est stressé. Et donc le problème des vacances, c'est comment on se déstresse, alors qu'avant c'était comment on se repose. Les premiers congés payés, le Club Med, quand il a ouvert, on ne pouvait pas y aller moins de 2 mois. Le premier séjour, c'était 2 mois. Nous, aujourd'hui, c'est 2 jours. Moi, quand j'ai conseillé le président du Club Med, on était encore à 1 semaine. On n'acceptait pas moins d'une semaine. Maintenant, on accepte des week-ends. Mais les premiers séjours, c'était 2 mois. Parce que c'était l'idée, je pars en vacances pour rencontrer des gens. Ça a été créé en plus par des gens qui venaient des camps de concentration nazis et qui étaient partis sur l'idée qu'il y avait eu des trucs extraordinaires dans les camps. C'est pour ça que ceux qui avaient survécu souvent avaient des réseaux de solidarité très forts. Et malheureusement, évidemment, ils se sont dit, mais si on faisait la même chose pour le bonheur. C'était ça leur idée, c'est inventons la même chose pour le bonheur. Bon, c'était ça la base du Club Med. Ah, Blitz, c'était l'époque de Blitz, c'était avant Trigano. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça que j'aurais tendance à répondre. Donc il y a des évolutions, parce qu'on n'utilise pas nos corps de la même manière, et aussi parce qu'on n'a pas, si vous voulez, un homme qui n'avait pas de surface avant, on considérait un type qui était tout maigre, on se disait, si vous voulez, il ne sait pas gérer ses affaires. Le fait d'avoir de la surface, ça voulait dire qu'on était bien nourri. Et si on était bien nourri, c'est qu'on était un type de confiance. Vous auriez eu un notaire squelettique, vous ne lui auriez pas fait signer vos papiers, quoi. Et donc, si vous voulez... Or, maintenant, on a changé, maintenant. Ce qui fait chic, c'est d'être tout mince, et à 70 ans, là, courir, tout bronzé, etc. Regardez les présentateurs télé, on dirait, moi, je ne sais pas, j'ai du mal à m'habiller à Paris, parce que ils s'arrêtent à des tailles de tout mince. Je dis, mais il n'y a plus que des minés dans cette ville, ou quoi? Comment on s'habille, quoi? Et donc, si vous voulez, il a là une évolution qui est extrêmement forte, donc on est obligé d'entrer dedans, de la suivre, quoi.
Merci beaucoup, Jean-Bien.
Oui. Une question, s'il vous plaît. Franck Perronnage, gérant de gîtes et chambres d'hôtes. Une petite question par rapport au réchauffement climatique dont vous avez ébauché quelques remarques tout à l'heure. Ici, beaucoup dans cette salle rêvent toujours d'avoir de plus en plus de touristes. Forcément, vous-même, vous avez tout à l'heure mentionné le fait que vous souhaiteriez qu'il y ait plus d'un doublement du nombre de touristes. Et il y a quand même quelque chose qui me surprend, c'est que dans le même temps, on sait qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre, nos émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. On sait que le transport est un des principaux responsables de ça. Ça me semble une équation assez compliquée à résoudre. On sait que ça passera par une rupture dans notre société, dans bien des domaines, dont le tourisme. Donc comment vous voyez les choses par rapport à cette rupture inéluctable?
Mais moi, je sais bien qu'il y a toute une volonté de réduire le voyage et de réduire le tourisme, de le réguler. La première chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'on ne gagnera la guerre climatique qu'ensemble. Sinon, on ne la gagnera pas. Parce que c'est une affaire mondiale, ce n'est pas une affaire nationale. Donc, il faut que se créent des phénomènes de solidarité. Et ces phénomènes de solidarité, on les a bien vus pendant la pandémie, se créer. Parce qu'on a continué, même en ce moment, regardez, la Russie continue à fournir les pièces pour ITER, le centre de recherche nucléaire qui est près de chez moi. Parce qu'on n'est pas fous, on sait bien qu'à un moment... Il faut qu'à la fois on lutte contre le réchauffement climatique, même si entre-temps on s'entretue à court terme. Donc là, il y a cette première question. La deuxième, c'est que, si vous voulez, je ne considère pas que les activités ludiques sont moins importantes dans la vie d'un homme que les activités de production. Ça fait partie des modes de vie. Je sais bien qu'on va vous dire qu'il ne faut pas de piscine. C'est vrai qu'une piscine, ça coûte à peu près une demi-baignoire d'eau par jour, encore qu'on peut la protéger. Mais en même temps, en France, il y a 3 200 000 piscines avec en moyenne 10 baigneurs par an. Ça veut dire qu'un Français sur deux se baigne dans une piscine. Donc, si vous voulez, est-ce que la question, c'est d'interdire tous les plaisirs? Je vais vous dire une chose, ça ne marchera jamais. D'abord parce que les plus riches vont effectivement continuer à les perpétuer. Et donc, effectivement, on va créer une société d'inégalité qui ne sera pas supportable. C'est pour ça que j'ai plaidé pour la régulation touristique par le numérique. Parce que je pense qu'on peut régler par le numérique, parce qu'à ce moment-là, on ne règle pas par l'argent. Et ça me semble important. Mais après, effectivement, on doit tous se dire, dans chaque destination, comment on diminue l'impact. Par les transports, par les moyens d'accès, etc. Par le fait que... Moi, je n'ai pas encore vu d'endroit où j'ai vu 200 vélos électriques qui m'attendaient quand j'arrivais dans une destination. Où j'ai vu qu'il y avait un système de sécurité, de surveillance des voitures. Vous voyez, quand j'étais élu à Marseille, je voulais faire ce qu'on fait en Angleterre, c'est-à-dire qu'il y ait des flics à cheval dans les parkings de voitures. Parce que c'est la seule manière de voir s'il y a des gens qui sont en train de casser les coffres, parce qu'ils sont au-dessus. Il y a très peu d'endroits où vous avez des flics à cheval dans les parkings. Or, le grand problème du touriste, c'est ses valises. Donc, s'il se gare pour visiter un lieu, s'il ne sent pas sa voiture en sécurité, etc. Donc, si vous êtes sûr de ce que vous dites, mon objectif, c'est justement qu'on ne réduise pas le voyage, mais qu'on réduise l'impact du voyage. On a parlé de la voiture électrique. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir sur les stations, sur la façon dont on les fait fonctionner, etc. Mais si le monde se replie sur lui-même, on perdra la bataille climatique. Parce que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mène la bataille climatique tout seul? C'est très bien de dire, nous, on fait ce qu'il faut en Europe, et puis après. Donc, si vous voulez, cette solidarité, on en a besoin. Donc, il faut avoir les deux dimensions du problème. Mais après, ce que vous dites est un vrai souci. Après, est-ce que vous voyez les compagnies aériennes disent, on va doubler le trafic en 20 ans? Alors, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement, ce sont des pollueurs. En même temps, on fait des progrès énormes dans des avions non polluants. Vous voyez, par exemple, quand il y a eu le débat sur les avions des élites sociales, les avions privés, moi, j'aurais simplement imposé qu'ils utilisent un carburant non polluant, puisqu'il existe. Il coûte 3 fois plus cher. Je m'en fous. Moi, si le mec, il a son Fokker, il a qu'à se payer son carburant plus cher ou il ne l'utilise pas. Je veux dire, c'est pour dire qu'au lieu d'avoir une réponse écologique, on a tout de suite une réponse d'interdiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse écologique. Et je pense, si vous voulez, que l'aviation, personne ne sait dans quel état elle sera dans 20 ans, mais il est clair qu'il faut qu'elle se décarbone. C'est un enjeu absolument essentiel. Est-ce qu'elle saura le faire? En ce moment, elle commence. Je crois qu'on met 15% de carburant écolo dans les avions. C'est quand même pas grand-chose. Et puis, en plus, ce carburant, on le récupère sur des surfaces agricoles. Donc, ça pose d'autres types de problèmes d'affectation des territoires. Donc, vous voyez, tout ça, on est en train d'inventer. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des avions qui marcheront à l'hydrogène? Je ne sais pas. Donc, il faut se laisser le temps de l'innovation. Moi, c'est pour ça que je dis, il faut dire, voilà, sur 20 ans, on fait ça. On se donne tel objectif. Dans les 5-10 ans qui viennent, les choses, on sait les faire. On a les techniques, on a tout. Par contre, il faut déplacer les budgets. Mais on sait les faire. Et après, d'ici là, on va encore continuer à inventer. Il faut croire aussi pour une petite part qu'on va inventer. Mais vous savez, la principale enjeu de la bataille climatique, c'est une évolution des modes de vie. Ça, je suis absolument d'accord avec vous. Mais je n'enlèverai pas le voyage, qui, à mon avis, est un élément fondamental de l'humanité moderne. Merci.
On va s'arrêter là. Un grand merci, Jean Viard. Merci beaucoup.
Encore merci, Jean Viard, de votre intervention brillante et passionnante. Je crois que toute l'assistante a été conquise de votre intervention avec les mots d'humour qui accompagnent. Je crois qu'on dit on ne parle de choses sérieuses qu'avec humour. Il y a un proverbe qui dit ça. Donc encore merci de votre présence et merci à vous toutes et tous. Je vous propose pour clôturer cette soirée, qu'on prolonge nos discussions dans le petit vin d'honneur qui est servi derrière le réfectoire dans les jardins du prieuré. Encore merci à toutes et à tous de votre présence et belle soirée à toutes et à tous.
Comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre.